Je me sens privilégié de revenir pour prêcher cette parole de Dieu. Alors je vais vous inviter à prendre un passage de l'Ancien Testament dans le livre de Job. Et nous allons lire Job, chapitre 1, versets 6 à 12. Job, chapitre 1, versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. » Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier pour ta présence. Parce que tu es parmi nous ce matin. Tu nous as déjà parlé au travers des chants que nous avons élevés vers toi. Au travers des prières, Seigneur, qui t'ont été adressées. Au travers de ce moment de Sainte Cène où tu nous as rappelé, en fait, ton amour pour nous. Et maintenant, Seigneur, tu veux encore nous parler d'une manière différente au travers de ce texte. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est mieux te comprendre. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est mieux cerner tes plans. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est continuer de marcher dans tes voies, de te suivre jusqu'au bout, comme nous voulons de le chanter. Oh, viens, Seigneur Jésus, encore ce matin. Remplis-nous encore de ton esprit. Nous en avons besoin. Et Seigneur, parle-nous maintenant d'une manière toute particulière. Nous voulons te le prier. En ton nom, amen. Amen. Si vous vivez suffisamment longtemps, vous allez souffrir. Voilà ce que nous disent les Écritures à de très nombreuses reprises. Mais je peux vous garantir ce matin que si nous vivons suffisamment longtemps, nous allons encore traverser des épreuves. Nous avons connu des épreuves. Peut-être que ce matin, nous traversons encore des épreuves. Mais une chose est sûre, nous allons encore connaître des épreuves par la suite. Et je sais que cela peut-être vous perturber ce matin, mais lorsque nous prenons en fait les Écritures, nous constatons que la souffrance est inévitable dans ce monde. La souffrance, elle est là. Cette souffrance, le texte ici nous en parle d'une manière très précise. Je pense toujours au témoignage d'un homme, un policier, assassiné dans une grande ville, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, les journalistes qui ont écrit un article sur cet événement disent « Cet homme était un père de famille, père de 4 enfants. » Il fréquentait une église Le journaliste va même jusqu'à dire cette personne apportait même la prédication dans son église. Et dans ce même article, il est dit que le père de famille dit, merci beaucoup, que... ouais, c'est bon comme ça ici. Ouais, merci. Le père de famille dit, je pardonne l'homme qui a tué mon fils. Et c'est vrai que dans ce genre d'événement, eh bien, nous pourrions être choqués, n'est-ce pas? Nous nous serions dit, si ce policier, en fait, n'avait pas été chrétien, si ce policier avait été impliqué dans un trafic de drogue quelconque, on se serait dit, mais c'est normal qu'il se fasse tuer, n'est-ce pas? Parce qu'il a commis le mal. Alors celui qui sème le vent récolte la tempête, n'est-ce pas? Mais là, il s'agit d'un chrétien engagé, d'un chrétien qui prêche la parole et qui a été assassiné, à nos yeux, injustement. Et je pense que la plupart du temps, la souffrance est scandaleuse. La plupart du temps. Nous savons qu'elle est universelle. Nous sommes tous touchés d'une manière ou d'une autre par le mal. Nous savons que parfois elle est utile, parce que parfois le Seigneur permet que nous puissions justement être touchés par une épreuve afin que nous puissions nous rapprocher de lui et à nouveau marcher dans ses voies. Mais je trouve que bien souvent, cette souffrance, elle est scandaleuse. Comme ce policier, ou comme Job, cet homme dont le texte nous dit qu'il était intègre et droit. Ce texte qui nous dit qu'il craignait l'Éternel. Ce texte, en fait, qui ne nous dit pas qu'il était parfait, mais qu'il était ce qu'il y avait de mieux dans la région à l'époque. C'était un témoignage vivant de la grâce de Dieu. C'était un homme qui était pleinement béni par le Seigneur, n'est-ce pas, parce qu'il avait une grande famille. Il semble que cette famille était harmonieuse. On voit un père qui prie pour ses enfants. Au cas où il pécherait contre l'Éternel. Et pourtant, nous voyons dans ce texte que nous avons lu ce matin que cet homme va connaître une épreuve terrible et une épreuve certaine. Ce texte nous montre que Job souffre à cause de sa foi, à cause de sa foi en Dieu. Et nous savons, en lisant toutes les Écritures, que si nous suivons le Seigneur jusqu'au bout, eh bien nous allons parfois connaître un certain nombre d'oppositions, et parfois des oppositions même en fait violentes. Souvenez-vous de cette parole que Paul écrit à Timothée, c'est dans 2 Timothée chapitre 3. Verset 12, celui qui veut vivre pieusement selon l'évangile sera persécuté, n'est-ce pas? Job souffre à cause de sa foi en Dieu. Dans le livre de Job, le thème principal n'est pas une considération philosophique sur l'origine du mal, non, pas du tout. L'objectif de tout ce texte de Job est de nous aider à savoir comment il nous faut persévérer dans la foi malgré l'épreuve. Voilà le thème principal de ce texte. L'épreuve est inévitable. Elle est universelle, elle est utile, mais elle est surtout scandaleuse. Surtout ici dans cette situation qui est celle de Job. Mais pour que nous puissions encore aujourd'hui persévérer dans la foi malgré l'épreuve, il y a deux choses qu'il faut prendre en considération dans ce texte. Deux choses importantes. La première, prenons à nouveau conscience de la présence, de l'existence réelle du Satan dans le monde. Voilà la première chose ici qui apparaît dans ce texte. Le verset 6 nous dit « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Ce texte de Job est pour moi un mystère. Je ne comprends pas, en tout cas je ne comprends pas tout ce qui se passe ici dans ce texte. Mais ce verset est incroyable, n'est-ce pas? Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Cette scène est particulière. Nous sommes dans la cour céleste. Cette cour céleste qui était semblable à toutes ces cours royales de l'Ancien Orient où tous les serviteurs devaient aller auprès du roi pour rendre compte de ce qu'ils venaient d'accomplir et pour recevoir en fait de nouvelles tâches, de nouvelles missions. Et on le retrouve dans d'autres cultures de l'époque où parfois toutes les divinités se rencontraient sur une montagne. Mais là, on est dans une cour céleste. Il y a des êtres célestes qui s'y trouvent, n'est-ce pas? Et si nous prenons le temps d'écouter un certain nombre de passages, en fait dans l'Ancien Testament, eh bien, nous constatons que cette existence des êtres célestes est incroyable. Je pense par exemple au psaume 82, qui parle de l'Éternel, qui se tient au milieu des dieux dans le tribunal divin pour rendre justice. Je pense à ce passage dans un roi, au chapitre 22, où Michée, fils de Imla, partage une vision d'un tribunal de Dieu où un esprit menteur prend la parole au travers de faux prophètes. Je pense encore au livre de Daniel, qui nous parle de ces êtres célestes qui sont engagés justement dans la destinée des nations. Et ces êtres célestes vont dire auprès de Daniel lui-même, c'est au chapitre 9, verset 22, eh bien, ils disent « Tu es le bien-aimé de Dieu ». Les êtres célestes existent, ils sont bien présents, ils sont les exécutants de l'Éternel, ils sont à l'œuvre dans le monde. Mais parmi ces êtres célestes, qui sont des anges, le texte dit littéralement, il y avait aussi le Satan qui était là. Et pour moi, c'est incompréhensible que le Satan puisse traîner là. On parle beaucoup de Satan dans la Bible, n'est-ce pas? Bien moins qu'on ne le pense, pour assurer certains. Il est parfois fait référence à la présence du Satan au travers de certains rois. Le roi de Tyr, dont nous parle Ézéchiel. Le roi de Babylone, dont nous parle Ésaïe, au chapitre 10. Mais là, dans ce texte, comme dans le texte de Zacharie, comme dans le texte de 1 Chronique 21, eh bien, il est question du Satan comme, justement, un être céleste individuel. Et le Satan est là. Le Satan est là en présence des autres êtres célestes. Alors beaucoup de questions ont été posées justement sur ce texte. Est-ce que ce Satan a toujours fait partie de cette équipe? Est-ce qu'il était un membre permanent de l'équipe? Ou a-t-il intégré l'équipe ce jour-là? Et personne ne se met d'accord sur l'histoire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est là. Il est là. L'Éternel lui pose une question, « D'où viens-tu ? » Il dit, « Je viens de faire une sorte de tour du monde. » Mais on voit qu'il est présent, qu'il est à l'œuvre. Certains disent, c'est peut-être aussi un exécutant de l'Éternel. C'est peut-être aussi, disent certains, un agent secret de l'Éternel qui va tout simplement mettre le doigt sur les péchés des humains. Mais non. La mission de Satan, c'est de détruire. Comme il va vouloir détruire Job, comme il veut nous détruire, comme il veut nous séparer à jamais de l'Éternel, à jamais de Dieu, à jamais du Christ. Mais il est là. Il est à l'œuvre. Il parcourt la terre. Il s'y promène. Ce n'est pas un être passif, le Satan. Il est bien là. Le Satan, l'adversaire, comme on le traduit littéralement. L'adversaire est bien présent. Et il est présent, non pas tout simplement pour en fait détruire Job. Et ce qu'il veut surtout faire dans ce passage, c'est de remettre en question la nature même de Dieu. Le Satan est à l'œuvre. Il est actif. Il ne traînait pas tout simplement là dans le monde pour faire quoi que ce soit. Non, il était bien à l'œuvre. Souvenez-vous ces paroles de Pierre qui dit que Satan est semblable comme ce lion rugissant cherchant qui il pourrait dévorer. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que dans le texte de Job, il n'est question de Satan que dans les deux premiers chapitres. Après, on n'en parle plus. Plus du tout. On n'en parle pas lorsque Job parle avec ses amis. On n'en parle pas lorsque l'Éternel s'adresse à Job. On n'en parle même pas dans l'épilogue. Pour dire que Satan n'a pas autant d'influence là et n'est pas la cause principale de certaines épreuves que nous pourrions connaître. Mais il est là. Et il est à l'œuvre. Mais son importance est plus que relative. Voilà ce que nous montre aussi ce livre de Job. Le Satan, il est présent et il pose une question surprenante. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? L'Éternel est tellement fier de Job. Et le Satan le sait. Mais cette question-là est une question d'actualité. Est-ce d'une manière désintéressée que vous avez placé votre confiance en Jésus? Est-ce d'une manière désintéressée que toutes les personnes qui fréquentent les églises dans toutes les nations ont une foi désintéressée en Dieu? Je pense toujours à mes amis africains lorsque j'y vais, parce que j'y vais une fois par année, deux fois par année pour aller enseigner là-bas, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, là-bas, dans tel endroit, ils prêchent l'évangile de la prospérité. Et les prédicateurs nous disent, si on a vraiment la foi en Dieu, on va devenir riche, on sera parfaitement guéri. Et je peux comprendre que ces gens puissent adhérer à la foi en Jésus lorsqu'ils entendent un tel message, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont absolument rien, ils ont à peine de quoi vivre, à peine de quoi manger, et je peux comprendre qu'ils puissent adhérer à la foi de cette manière-là. Mais le problème, c'est que bien souvent, il n'y a aucun résultat. Et lorsque les Saoudiens viennent construire alors une mosquée quelques kilomètres plus loin, ils vont dire à ces gens du pays, venez chez nous, on vous donnera à manger et à boire à condition que vous deveniez musulmans. Comment Satan est-il à l'œuvre dans le monde? Comment le Satan est-il à l'œuvre dans l'Église? D'abord, c'est évident, dans le monde, n'est-ce pas? On pense à l'État islamique, par exemple, qui accroît quand même sa puissance, même si il perd un peu du terrain. Le Satan se sert, en fait, de l'État islamique pour détruire de plus en plus le monde en fait, dans lequel nous vivons, n'est-ce pas ? Tout comme je pense personnellement que le Satan a utilisé l'Église par le passé pour l'Inquisition, pour la découverte de l'Amérique du Sud ou pour toutes les autres missions en fait coloniales, en Afrique, ailleurs. Le Satan est à l'œuvre parfois d'une manière tellement évidente et parfois à l'œuvre d'une manière tellement subtile. Au travers des faux enseignements, comme je viens de vous le dire aussi, le Satan est à l'œuvre d'une manière authentique. Donc, soyons conscients de cela. Je rencontre parfois des gens qui me disent, ici en Occident, ils me disent « Mais non, le Satan n'existe pas. Ce ne sont que des croyances pour peuple retardé, disent-ils. Nous, on conduit notre société par la logique de la raison. Mais tous ces esprits, tous ces démons, c'est pour l'Afrique, c'est pour l'Amérique du Sud, c'est pour l'Asie. Mais c'est pas pour nous. On n'y croit pas, nous, à ces choses-là. Pourtant, le Satan est vraiment à l'œuvre dans ce monde. Il utilise parfois donc même des chrétiens, même des églises, pour accroître son pouvoir dans ce monde. Donc, soyons conscients d'une telle présence. Soyons conscients d'une telle action du Satan dans le monde. Et veillons. Veillons. Restons proches du Seigneur. Je dis souvent aux gens, pour faire face à l'ennemi, eh bien, gardez votre Bible ouverte pour écouter ce que Dieu veut vous dire. Soyez intransigeants avec le péché avec lequel vous aimez parfois tellement jouer. Centrez toute votre vie sur le Christ qui est mort pour vos fautes et qui est ressuscité et qui a tout accompli afin que vous ne puissiez plus être sous la domination du Satan, justement. Priant sans cesse. Priez sans cesse. Passons du temps avec les autres chrétiens afin que nous puissions nous encourager dans la foi. Et maintenant, ces temps réguliers avec Dieu. Parfois, je dis à certaines personnes, je préfère que vous passiez 7 minutes par jour avec le Seigneur que 1 heure par mois. La régularité est bien plus fondamentale que toute autre chose. Pour résister, pour rester debout face au Satan qui est à l'œuvre et qui désire nous malmener autant que possible et qui désire nous faire croire que nous pouvons encore être sous son autorité alors que nous ne sommes plus. Ça, c'est la première chose de ce matin. Soyons conscients de la présence du Satan, tout comme le Satan était là dans cette cour céleste, dans le monde, il est encore là aujourd'hui et il fait tellement de mal tout autour de nous. Mais deuxièmement, dans ce texte, il nous est dit que Dieu est pleinement souverain. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Hein ? Mais il nous est quand même rappelé, en tout cas à une reprise, que Dieu est souverain. Il dit au verset 10, « L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors le Satan se retira de sa présence, enfin de la présence de l'Éternel. Le Seigneur règne, même si nous avons de la peine à y croire dans ce passage, n'est-ce pas ? Il règne quand même. Nous pouvons dire, en fait, d'abord qu'il règne, parce que tout comme tous les êtres célestes qui étaient dans cette cour vont se présenter devant l'Éternel et montrent ainsi qu'ils lui sont subordonnés, cela prouve que Satan aussi est subordonné à l'Éternel. Deuxièmement, ce passage nous montre que oui, en effet, le Seigneur est prêt à laisser le Satan faire du mal à cet homme, mais juste à un certain point. Il doit même lui demander presque l'autorisation pour faire du mal à Job, mais donc l'Éternel lui dit, tu ne lui enlèveras pas la vie. Le Seigneur règne dans le ciel comme sur la terre. Il tient la vie de Job dans sa main. Alors c'est vrai, il aurait pu, n'est-ce pas? Il aurait pu tout simplement dire au Satan, tu ne feras absolument rien à cet homme. Mais il choisit de laisser le Satan agir juste à un certain point, en fait dans la vie de cet homme. Je pense toujours à ce livre écrit par un juif, Harold Kushner. C'est un rescapé d'Auschwitz. Et il dit, durant toutes ces années, en fait dans les camps, Dieu a fait son possible, comme pour dire que Dieu n'était pas souverain dans cette situation-là, même si elle est scandaleuse et donc incompréhensible, évidemment. Mais ce texte nous dit que le Seigneur règne. Il est important que je vous dise ce matin que non seulement Job souffre pour sa foi, mais que la nature de Dieu est remise en question par le Satan. Il dit ici au verset 10, c'est le Satan qui parle, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. » Le Satan est en train de dire à l'Éternel, eh bien, tu l'as acheté, Job. Tu lui as donné une belle famille. Tu lui as donné tous ses troupeaux. Et c'est seulement pour ça qu'il croit. Tu l'as acheté. Ton amour n'habite pas dans le cœur de cet homme. Et je vais te le prouver. Voilà ce qu'il dit. Il est en train de dire, il n'y a rien en toi, Éternel, qui puisse transformer la vie de l'humain par l'amour dont tu dis être l'héritier. Non, tu l'as acheté. Donc pourquoi alors? Pourquoi est-ce que ici, l'Éternel accepte déjà de dialoguer avec le Satan? Pourquoi ne veut-il pas le pulvériser? Pourquoi ne veut-il pas l'éliminer? Ce serait tellement plus simple, n'est-ce pas? Il y a une seule réponse à ce texte et à cette question ici. C'est que l'Éternel, qui fait un pari fou, d'abord sait que Job va s'en sortir. Il le sait. Mais il sait surtout que s'il manifestait tout simplement sa puissance, d'une manière extérieure, elle n'aurait pas autant d'impact que si Job, rempli de l'amour de l'Éternel, persévérait par la foi jusqu'au bout, malgré l'épreuve. Le témoignage du chrétien fidèle même dans l'épreuve est bien plus puissant qu'une simple manifestation qui viendrait d'en haut. Et je vous dis ce matin que le témoignage de foi d'une personne chrétienne qui est dans l'épreuve et qui continue de rester attachée au Seigneur dans l'épreuve est bien plus puissant qu'une personne qui vient d'être guérie physiquement par le Seigneur. Et ce matin, je veux nous inviter à justement rester attaché attaché au Seigneur, même dans l'épreuve, en sachant que c'est lui qui a tout accompli par Jésus-Christ sur la croix, en sachant que, en croyant en ses paroles, où Jésus dit à ses disciples, « Je suis celui qui règne dans le ciel comme sur la terre, et je suis avec vous chaque jour et jusqu'à la fin du monde. » Eh bien, que nous puissions être des témoins vivants de sa grâce, même dans l'épreuve. Parce que vous savez, n'est-ce pas, que le Satan ne veut pas. Il ne veut pas que nous puissions témoigner de la puissance de Dieu au quotidien. Il ne veut pas. Et le Seigneur se sert de nos témoignages respectifs pour que sa puissance se manifeste dans les vies. Combien de gens ai-je rencontré, en fait, qui m'ont dit, lorsque je leur ai présenté en fait, l'évangile, mais est-ce que ça marche? Je pense à cette femme musulmane qui était toute perdue, qui menait une vie de débauche et qui ne savait pas ce qu'elle devait faire en fait, de ce Coran. Et puis je lui dis, mais Christ a tout accompli pour vous sur la croix. Et si vous lui donnez votre vie, vous pouvez pardonner de vos fautes et vous pouvez commencer une vie nouvelle. Et cette femme a vu des témoignages vivants de toutes ces autres personnes chrétiennes. Et elle a été touchée. Touchée. Et ce matin, je désire que nous ne puissions pas nous laisser décourager, décourager par ces circonstances de vie qui sont parfois difficiles à vivre, mais qu'au contraire, nous puissions tenir bon en sachant que le Seigneur va se servir de notre témoignage dans la plus profonde épreuve pour toucher des vies. Alors ce matin, soyons encouragés. Encouragés par ces paroles. Ces paroles sont d'un côté scandaleuses. Mais vous le savez, n'est-ce pas? La puissance de Dieu se manifeste au travers de la faiblesse. Vous le savez au travers de l'écharpe de Paul, qui est dans la chair. Vous le savez principalement au travers de la venue et de la mort du Christ. Eh bien, Dieu manifeste sa toute-puissance au travers de notre fragilité. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu vis. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous devons traverser telle ou telle circonstance. Mais Seigneur, tu es là. Tu nous rappelles que nous sommes impliqués, qu'on le veuille ou non, dans un combat spirituel de tous les jours, où le Satan essaie de nous faire croire qu'il règne encore, alors qu'il a été vaincu par toi, Jésus, sur la croix. Et Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que tu tiens notre vie dans ta main. Et nous voulons nous réjouir de pouvoir t'appartenir. Nous voulons nous réjouir de pouvoir être tes enfants. Nous voulons nous réjouir de pouvoir être, en fait, tes serviteurs, tes servantes. Nous voulons nous réjouir d'être tes témoins en toutes circonstances. Alors viens renouveler nos forces ce matin, Seigneur Jésus, remplis-nous de ton esprit et fais en sorte que nous puissions encore dire ton œuvre, dire ton amour dans ce monde qui en a tellement besoin. Nous voulons te le prier en ton nom. Amen.